France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Amandine Gay. J'ai lu votre livre et ce qui m'a plu, c'est votre style direct, sans fioritures. J'ai ressenti votre livre comme une façon de remettre les pendules à l'heure. Pour moi, vous allez à l'essentiel et cela sonne tellement juste.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Rester en vie est une résistance aujourd'hui dans votre book club. Se reposer, prendre soin de soi, considérer que son existence a de la valeur plutôt que sombrer. Dans son dernier ouvrage, Amandine Gay expose les mécanismes de ce qu'elle nomme avec d'autres suprématie blanche et raconte avec précision ce qu'endurent souvent silencieusement et souvent au prix de l'usure extrême de leur corps et de leur psyché, les femmes noires et d'autres personnes racisées en France. Retrouver l'amour du rire, celui du plaisir et de la pensée, c'est le trajet qu'elle propose dans ce texte où s'articule sa critique d'une croisée des dominations, infantisme, racisme, patriarcat, productivisme. C'est aussi une invitation claire, un appel à ce que les personnes blanches, les femmes blanches, celles du majoritaire, prennent leurs responsabilités, regardent présent et histoire en face, au prix d'un relatif inconfort et réduction des privilèges, admettent les erreurs, les ignorances, les angles morts, pour que le droit à une vie digne soit effectivement égalitaire. Vivre libre, c'est le titre de son livre, paru aux éditions La Découverte. Amandine Gay, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Book Club et bienvenue à tout le monde dans le Book Club de France Culture. On est ravis de vous recevoir pour ce livre, Vivre libre, paru dans les cahiers Li. Ça fait vraiment beaucoup de libre à livre. Cahiers libres aux éditions La Découverte. Ce sera au cœur de notre conversation dans un instant. Mais ici, tout commence toujours par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. On veut faire connaissance avec nos invités en leur demandant de nous parler de leur rapport au livre, au langage, aux mots, à la littérature, à cet objet-là. Vous diriez que ça commence comment pour vous ?
Alors moi, je pense que, en tout cas, ce dont je me souviens, c'est d'une collection de livres sur l'histoire de France qui était chez moi quand j'étais petite, qui était une collection de livres orange. Et il y avait plein donc d'épisodes historiques, etc. Dont voilà, Vercingétorix qui jette son bouclier. Et j'avoue que voilà, moi, j'ai toujours été. Enfin, je pense que la veine narrative qu'il y a dans ma vie de vouloir être après dans l'audiovisuel, etc. vient de ça. J'adore qu'on me raconte des histoires. J'aime l'histoire avec un grand H. Et pour moi, la lecture, c'est avant tout ça, quoi.
On vous en racontait ?
Des histoires ? Oui, je pense quand même. Après, j'avoue que moi, la petite enfance, j'ai pas des masses de souvenirs. Mais bon, c'était quand même très présent. Bah, ma mère est institutrice, donc il y avait des livres à la maison. Elle était abonnée à France Loisirs. Puis moi, j'ai été à l'école à 2 ans. Donc à l'école, on nous lisait aussi des histoires. Mais c'est vrai qu'on regardait aussi pas mal de... Pas beaucoup, mais un peu des dessins animés. Donc oui, moi, dans ma vie, sont arrivés assez rapidement les livres et l'image, on va dire.
Quand vous sortez de la petite enfance et du geste qui veut qu'on écoute des histoires, est-ce que vous vous souvenez d'un premier moment où vraiment vous avez eu du plaisir à lire vous-même toute seule des livres ?
Alors moi, je dois dire que c'était plus mes premiers plaisirs, ça a été plutôt des magazines. En fait, je dirais que mes premiers souvenirs, c'est je me suis abonnée à Alternative Économique quand j'étais au lycée, parce que notre prof d'éco nous avait dit que c'était très bien de lire Alternative Économique. Et j'avoue que voilà, j'adorais. C'est peut-être pour ça aussi qu'après j'ai une plus grande passion, on va dire, pour les essais, pour la littérature. Mais oui, c'est la première chose que je me souviens avoir lue par choix et pas parce que c'était imposé à l'école.
C'est singulier comme premier choix Alternative Économique. Je crois que c'est la première fois dans un questionnaire lecture depuis des centaines et des centaines d'émissions qu'on me dit ça. Vraiment, j'adore. Et c'est intéressant.
Bah, parce que moi, je pense que j'ai besoin de comprendre le monde. C'est vrai que là, par exemple, en vieillissant, je développe un goût, j'ai envie de lire de la littérature. Genre, pour la première fois de ma vie, je me dis que j'ai plus envie de me mettre à lire des romans.
La fiction.
Que des essais. Mais j'ai 41 ans, c'est la première fois de ma vie. Avant ça, j'ai beaucoup plus, quand j'ai lu la littérature, et j'en ai peu lu, il faut le dire, c'était vraiment plus parce que je voulais comme rattraper un écart culturel de... Je vous dis, ma mère, elle lisait, mais on n'est pas une famille de grands intellectuels, c'est pas vraiment ça la vibe, c'est juste que c'est bien et que c'est important de lire pour le parcours aussi scolaire, etc. Mais je pense que comme c'était très lié à ça, de la lecture comme outil aussi pour s'élever socialement... ça a créé chez moi quelque chose de très ambivalent vis-à-vis de la littérature. Et comme...
Que vous pouvez préciser ?
Mais que j'arrivais pas... En fait, j'avais pas envie de connaître les grands classiques de la littérature, en particulier française, blanc, etc., ou occidentaux, parce que j'ai fait tellement d'efforts par ailleurs pour acquérir les codes culturels, on va dire, plutôt bourgeois, ou en tout cas des classes dominantes, parce que l'objectif, c'était... Enfin voilà, ma mère, c'est la première de sa famille à avoir été à l'université. C'était par le biais de ce qu'on appelait l'école normale à l'époque, donc la formation
des instituteurs et institutrices.
Mais donc du coup, moi, je suis la deuxième de la famille à avoir été à l'université, et donc moi, j'ai été à Sciences Po, et il y avait toujours cette idée... voilà, j'ai été très poussée à l'école par ma mère, et donc il y avait vraiment cette idée qu'on s'élève socialement... par l'école, et donc voilà, moi je suis rentrée à Sciences Po à l'époque où il y avait encore le concours de culture G, et donc cet enjeu de ce qu'on doit connaître du monde des dominants comme moyen de s'en sortir dans la vie était très prégnant, et c'est vrai que ça m'a comme dégoûté la littérature. Il y a eu un endroit où je me suis dit non, ça je vais pas le faire, parce que ça suffit en fait, ne voyant pas que du coup j'avais quand même raté un pan de la culture qui est par ailleurs très intéressant, et d'autant plus intéressant si par exemple on veut faire des films de fiction. Mais par exemple, moi c'est vrai que je suis revenue à la littérature parce que voilà, j'ai par exemple une passion pour les comédies romantiques, et donc j'ai d'abord vu les adaptations BBC des livres de Jane Austen avant de lire Jane Austen. Mais c'est vrai qu'en fait quand on voit du Jane Austen, on se dit non, je vais quand même aller lire l'original, et c'est incroyable. Et en fait, une fois qu'on a lu un Jane Austen, on se dit ah, mais en fait du coup toutes les comédies romantiques ont tout pompé à Jane Austen. Donc là, en fait, moi, dans ce sens-là, je me dis, ah oui, non, ça m'est utile, en fait.
Tout un continent s'ouvre à vous,
par conséquent. Complètement.
Et en même temps, par exemple, le livre dont on va parler, il est en permanence tissé de lecture. C'est-à-dire que, et peut-être on revient à cet autre pan des livres que vous aimez, dont vous vous servez, qui vous arment, avec lesquels vous travaillez, Amandine Gay, qui est plus de la littérature théorique, quoique il y a une place quand même qui est faite pour Audre Lorde, qui a un peu navigué dans les deux, et aussi Toni Morrison. Comment est-ce que vous découvrez tous ces gens que vous citez là et qui sont comme votre atelier de... On vous sent au travail avec elles et avec eux.
Bah, moi, c'est vrai que j'appartiens à un groupe de personnes qui spiralent dans les bibliographies. Donc, en fait...
Depuis toujours.
Depuis mon mémoire de fin d'études à Sciences Po. C'est-à-dire qu'à partir du moment là où j'ai décidé d'écrire sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société française contemporaine...
Vous n'en pouvez plus dire ce titre.
J'en peux plus. C'était en 2005, je pensais jamais que je le dirais autant de fois, en fait, hein, je pense. Que du coup, j'ai donc là, je me suis mise à lire beaucoup d'essais à ce moment-là, sur la colonisation, sur les questions raciales, etc.
Et vous trouviez à lire il y a 20 ans sur ces questions-là?
Oui, quand même. Enfin, je veux dire, par exemple, était déjà sorti des livres comme le livre sur les eaux humains de Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, et j'ai oublié la troisième personne. Donc, il y avait quand même des ouvrages. Louis Salamolin, ça existait aussi déjà. Donc, il y avait des ouvrages. Et puis après, il y avait quand même Césaire, Fanon. Donc, quand on cherche un peu, justement, après, on trouve dans les bibliographies. Les autres auteurs font des références. Et donc, moi, c'est comme ça que je me suis mise à lire des ouvrages théoriques, parce qu'à chaque fois, je me disais « Ah, j'aime cette citation, donc je vais aller lire le bouquin. » Et puis là, du coup, je trouvais d'autres citations, et donc je lisais d'autres bouquins. Donc moi, c'est beaucoup de la lecture par ricochet, en fait.
Et de la lecture traduite aussi, puisque parmi les gens que vous citez régulièrement, Amandine Gay, il y a beaucoup de personnes qui publient plutôt ou d'abord aux États-Unis et qui sont éventuellement traduites dans un temps, second, troisième temps en France. Est-ce que votre voyage au Québec et le temps que vous passez là-bas, c'est un temps pour vous qui, je ne sais pas, vous ouvre d'autres territoires de lecture?
Oui, beaucoup. Et aussi parce que quand donc j'ai été au Québec la première fois de 2015 à 2018, c'était aussi un moment où j'étais très mobilisée sur les questions d'adoption et où j'allais du coup beaucoup aux États-Unis, où il y avait beaucoup il y avait des colloques organisés par des personnes adoptées qui réfléchissaient...
Plus qu'en France à ce moment-là.
Ah bah oui, alors ça n'existait pas dans le monde francophone, hein. Et surtout sur l'adoption transraciale, donc des personnes racisées qui réfléchissaient. Et là, pour le coup, là, c'est aussi en colloque. Je me rappelle d'un en particulier, ça s'appelait le American Adoption Congress. Et moi, j'avais été invitée à participer à un panel sur l'expérience des adoptés noirs partout en Occident. Donc il y avait moi pour l'Europe, il y avait une Canadienne, une États-Unienne, etc., et une d'Allemagne. Et donc là aussi, c'est des moments d'échange où les personnes me disent...
Tu devrais lire ça.
Exactement.
Ça, c'est une ressource.
Et là, par exemple, c'est le moment où j'ai découvert un livre qui s'appelle « Outsider Within, Writing on Transracial Adoption ». Et donc, en fait, on va dire un peu comme « étranger de l'intérieur », mais en fait, « Outsider Within », c'est un concept qu'a développé Patricia Collins. Et ce que faisaient très bien toutes les personnes qui sont dans ce livre sur l'adoption transraciale, c'était d'expliquer aussi, et donc quelque chose que moi j'ai repris, la question des politiques de la citation, pourquoi c'est important d'établir des filiations intellectuelles, de toujours revenir à la personne qui a créé un concept qu'on va nous développer dans notre champ.
Que vous faites tout le temps.
Voilà. Donc ça, c'est le moment de ma vie où j'ai appris tout ça. Où j'ai eu accès à des références en anglais, mais j'ai aussi appris à travailler d'une certaine façon qui reflète beaucoup l'activisme afro-américain, en tout cas des féministes noires, des féministes latinas, autochtones.
De créer des hérédités de pensée, des hérédités littéraires, d'écriture, de mobilisation.
Exactement. Et de voir aussi comment on peut appliquer des concepts. Voilà, quand Patricia L. Collins développe le concept d'outsider within, elle parle de la place des femmes noires dans le monde de la sociologie blanche universitaire. Mmh. Et ensuite, bah, on a ces adoptés transraciaux qui se disent mais outsider within, ça s'applique très bien à la condition des personnes noires ou asiatiques, etc.
Donc on l'emprunte, on déplace le concept dans un autre
champ. Mmh. Et moi, ça c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Et donc ça m'a beaucoup inspirée de rencontrer toutes ces personnes et toutes ces pensées.
Concrètement, la manière dont vous mettez en page vos textes, et ce texte-là en particulier, il rend compte d'un atelier de travail, presque d'un bureau bibliothèque. Ça occupe quoi comme place dans votre quotidien aujourd'hui, la lecture, Amandine Gay?
Eh ben, ça dépend des périodes. Là, je suis en tournée, donc la place est infime et j'ai donc un bureau sur lequel s'empilent les livres actuellement, parce qu'en plus, j'ai les copines qui sortent des livres, j'ai les livres que moi j'ai envie de lire. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de lire les livres de mes copines, mais il y a des espèces, donc j'ai différentes piles comme ça. Donc là, ça occupe plus une place, on va dire, physique dans ma vie, mais justement, là, j'aimerais avoir le temps de recommencer à lire. Souvent, ce qui se passe pour moi, et c'est quelque chose que maintenant, j'aimerais faire évoluer, c'est que je fais ce que j'appelle la lecture utile. En fait, je lis en lien avec les projets que je développe à un instant T. Et en fait, je trouve ça aussi un peu frustrant, parce que j'aimerais faire de la lecture plaisir. J'aimerais lire parce que, voilà, j'ai envie de...
Surtout d'explorer. Pour quelqu'un qui critique le productivisme et qui voudrait ouvrir d'autres espaces dans sa vie, Amandine Gay.
Tout à fait. Je suis en très grande tension entre... En fait, une bonne partie de ce que je développe, c'est parce que j'aimerais vraiment l'appliquer moi-même. Ce n'est pas toujours aussi simple. Mais en tout cas, là, c'est sûr que mon horizon à court-moyen terme, c'est de faire de la place, de faire de la place pour pouvoir lire et pour pouvoir être justement aussi retrouver ce que j'avais dans mes années d'études. Mais c'est un peu la tension aussi dans le fait de travailler dans les industries culturelles, c'est qu'à partir du moment où la création, la réflexion devient notre gagne-pain, eh bien, on se retrouve prise dans cette machine productiviste. Et effectivement, que là, j'arrive aussi à une phase, ça fait 10 ans que je suis quand même vraiment à fond, que je pousse beaucoup, que j'ai beaucoup produit. Et il y a aussi une sensation un peu de vide. On a besoin de se nourrir comme artiste, et pas que de lecture d'ailleurs. Moi, je veux dire, il y a aussi des questions économiques. Je suis arrivée à Paris, j'avais moins de 25 ans. Donc, j'avais 3 abonnements de théâtre, je passais ma vie dehors en concert, etc. Voilà, tout ça ne coûtait pas très cher et puis j'avais beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en vieillissant, là vraiment ça me manque. La lecture me manque, le théâtre me manque, les concerts me manquent et il faut changer de façon de vivre et de travailler pour avoir plus de temps pour ça.
Vous citez de nombreuses autrices et auteurs dans votre livre. On a juste mentionné Audre Lorde, je pense aussi à Sadie Hartmann, mais aussi une chanteuse qu'on va entendre dans pas très longtemps, Janelle Monae. Est-ce que vous avez le souvenir ces dernières années de quelqu'un qui vous aurait comme fait un tout petit peu pivoter sur vous-même et produit un véritable, je sais pas, changement de regard ou même quelque chose d'infime, mais qui est suffisamment notable pour que vous ayez envie de dire son nom dans votre vie de lectrice, Amandine Gay?
Oui, bah c'est Tal Peter Bromerx. Hein. Tal, c'est vraiment la personne... je veux dire, je pense que j'étais...
Est-ce que vous pouvez situer?
Oui, pardon. Tal, c'était une philosophe. On la nomme avec les deux genres parce que au moment de son suicide, Tal était en transition. Donc tout le monde a décidé qu'on utiliserait les deux. Et c'est une personne qui a développé une réflexion foisonnante pour le temps où on a eu la chance de l'avoir avec nous sur la question de la domination adulte, de l'infantisme. Et c'est vrai que moi, les droits des enfants m'intéressaient, la question des rapports de pouvoir dans la parentalité, la question politique du ferme-famille m'intéressait. Mais vraiment, comprendre qu'il y avait une domination spécifique des adultes sur les enfants et l'articuler aussi dans des exemples. Tal, c'était aussi quelqu'un qui écrivait à partir d'exemples concrets. Je le donne souvent parce qu'il donnait l'exemple de la poignée de porte comme enjeu de non-accessibilité pour les enfants et d'un monde qui n'est pas pensé pour les enfants et que ça s'étend à tout, ça s'étend à la hauteur des toilettes, etc., etc. Et donc, du coup, aussi, comment est-ce qu'on peut penser, encore une fois, en dialogue et de se dire, si on réfléchit politiquement à la domination adulte, ça veut dire qu'on réfléchit aussi politiquement au validisme et ça veut dire, dans mon cas, qu'on réfléchit aussi à la question de la suprématie blanche et c'est pour ça que j'ai un chapitre sur... s'appelle Enfants sauvages, pour voir comment les processus d'infantilisation et les arguments qui sont utilisés pour disqualifier politiquement les enfants ont historiquement aussi toujours été étendus à d'autres groupes sociaux pour pouvoir les disqualifier politiquement. Et donc, en fait, la rhétorique, par exemple, de la mission civilisatrice et d'aller éduquer les grands-enfants du Sud, etc., elle est possible parce qu'on a déjà une rhétorique infantilisante pour disqualifier un autre groupe social qui sont les enfants. La lecture des articles de Tal d'abord, et puis sa thèse a été publiée à titre posthume, ça s'appelle « La domination oubliée ». C'est vraiment une pensée qui m'a influencée de façon majeure et qui a vraiment nourri ma réflexion à plein d'endroits sur les rapports de pouvoir et justement aussi sur cette nécessité de se penser toujours comme potentiel oppresseur, de se dire qu'il y a un espace où toutes les adultes sont toujours dominantes et c'est vis-à-vis des enfants.
Oui, vous dites au final, même une femme, il lui restera ça, quoi. Même ça, il lui restera la possibilité de dominer un enfant.
C'est ça. Et ça, je pense qu'on a vraiment à gagner à se penser, à ne pas se penser de façon unilatérale. Que ce soit du côté, les oppresseurs ne se pensent pas beaucoup, c'est aussi pour ça qu'ils continuent à faire du mal, mais du côté des personnes qui vivent des oppressions, qui peuvent vivre des oppressions croisées, je pense que c'est extrêmement salutaire de réfléchir aux endroits où nous sommes, nous aussi, en position de pouvoir et donc en potentielle position de faire du mal à notre tour.
C'est à mon sens, double tranchant, tourné vers le futur, d'une part parce que c'est tourné vers l'enfance, donc en effet tourné vers les temps futurs, quelque chose qui est l'ouverture de votre texte, Amandine Inguet, mais aussi tourné vers le futur parce qu'on a la sensation qu'une partie de la pensée critique aujourd'hui s'intéresse à l'enfant, s'intéresse à la pensée de l'enfant, à l'imagination de l'enfant, évidemment au corps de l'enfant, à la domination qui pèse sur les enfants. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui bruisse là, mais qui bruissait déjà aussi dans le cinéma il y a quelques années, enfin, qui mettrait l'enfant comme sujet politique au cœur d'une pensée en train de se renouveler, Amandine Gay.
Oui, moi je trouve ça génial. Franchement, dans les choses qui aujourd'hui me donnent vraiment de l'espoir et de l'énergie, c'est de voir justement qu'on arrive à se mobiliser autour de la question de l'enfance comme enjeu politique et aussi de commencer à intégrer les enfants dans nos réflexions. Récemment, là, j'ai pu participer à une table ronde où on était en parité de mineurs et de majeurs pour réfléchir à la démocratie à hauteur d'enfants. C'était en Belgique, je précise. Donc j'espère que ça arrivera bientôt en France aussi. Mais je pense que voilà, cette idée de se dire non, le suffrage n'est toujours pas universel. En fait, les 0-18 ans, c'est quand même une grosse partie de la population française. Et est-ce que c'est juste que ce soit des adultes dont un certain nombre sont bientôt proches de la fin de vie qui décident de l'orientation politique de notre pays et de l'avenir des enfants? Enfin, c'est quand même leur avenir à eux. On est en train de décider pour ces personnes-là. Donc voilà, la question de... j'y vais bien sûr avoir oublié le nom de l'autrice, mais il y a un petit texte là qui est sorti récemment. Qui
s'appelle Infantisme ?
Non, qui est pour le droit de vote dès la naissance. Et ça, je trouve que c'est génial, avec des arguments justement à revenir sur cette histoire de l'argument pour empêcher les femmes de voter pendant très longtemps, c'était elles ne sont pas autonomes, elles vont voter comme leur mari, etc. C'est exactement l'argument qui est utilisé contre les enfants. Alors qu'à l'inverse, on naturalise la compétence des adultes. Mais excusez-moi, regardez le monde dans lequel on vit. Je veux dire, tout brûle, c'est le chaos, donc clairement on n'est peut-être pas les plus compétents et je pense qu'on a vraiment rien à perdre à impliquer les enfants dans l'organisation politique de ce pays, par exemple, et des autres d'ailleurs.
Au moment où votre livre, et c'est le cas à plusieurs moments, Amandine Gay veut se tourner vers le plaisir, qu'il soit le plaisir de penser, le plaisir érotique, le plaisir de vivre, qui est à conquérir ou à reconquérir, vous citez cet artiste. For me.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Enfin, vivre libre. C'est le plus bel hommage aux aînés qui se sont sacrifiés pour notre liberté et le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à nos descendantes. Ce sont les derniers mots de votre ouvrage, Amandine Gay, au programme de notre Book Club de France Culture cet après-midi, lequel ouvrage fait un permanent aller-retour entre des récits de votre propre vie et l'analyse politique d'un contrat social totalement basé, vous le dites avec le philosophe jamaïcain Charles Mills, sur un contrat racial. Il s'agit pour vous, dans ce texte, de substituer à la panique morale de toute une partie de la population la simple possibilité d'une écoute, mais aussi une attitude de reconnaissance vis-à-vis des violences racistes passées et présentes, dont le livre sonde les profonds et puissants effets destructeurs. Vivre libre, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions La Découverte. On continue d'en parler avec vous, ou plutôt on commence d'en parler avec vous, Amandine Gay, avec à la fois la voix d'Audrey Lorde dans une interview diffusée en 1982 et l'extrait d'un poème, Litanie pour la survie.
En fait, le titre de ce poème, c'est Une litanie pour la survie, numéro 42. Il faut juste garder en tête que la survie, ce n'est pas une décision qu'on prend une fois pour toutes. Ce n'est pas un acte qu'on fait une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose qui continue encore et encore. Et on s'y engage. De la même façon que je m'engage envers moi-même, que je m'engage dans mon travail, je m'engage dans ma survie et dans ma faculté à la reconnaître partout où elle se manifeste. Une litanie pour la survie.
For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision,
pour celles de nous campées sur le rivage, debout sur le pont immuable des décisions, cruciales et seules, pour celles de nous qui n'arrivons pas à nous abandonner aux rêves fugaces des choix. Les amours vestibules, allant, venant, le long des heures entre les aubes, scrutant l'envers, le dedans, à la fois l'après et l'avant, à la poursuite d'un présent qui répète les futurs, comme le pain dans nos bouches d'enfants, dont les rêves ne seraient plus le reflet de l'agonie des heures. Pour celles d'entre nous, imprimées de terreur comme une ligne discrète au milieu du front, apprenant l'effroi dans le lait maternel, par cette arme, cette illusion d'une sûreté à trouver, la maladresse nous voulait muettes, nous toutes. Cet instant et ce triomphe, nous n'étions pas censés survivre. Et lorsque le soleil se lève, nous craignons qu'il ne puisse se maintenir. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se relève pas le matin. Quand notre ventre est plein, nous craignons l'indigestion. Quand notre ventre est vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Quand nous sommes aimés, nous craignons que l'amour s'évapore. Mais seuls, nous craignons que l'amour ait fui à jamais. Et quand nous parlons, nous craignons que nos mots soient perdus ou malvenus. Mais même silencieuses, nous restons apeurés. Alors il vaut mieux parler et se souvenir que nous n'étions pas censés survivre.
But when we are silent, we are still afraid. So, it is better to speak, remembering we were never meant to survive.
La La voix d'Audrey Lorde elle-même qui lit une litanie pour la survie, un extrait d'un recueil qui s'appelle La licorne noire, paru initialement en 1978. Ce mot-là de la survie et l'idée de survivre, Amandine Gay, il est présent dès le début du livre.
Oui, parce que je pense que c'est vraiment essentiel que tout le monde comprenne, déjà que nous, les personnes racisées, en particulier les femmes noires, on comprenne pour nous-mêmes que la survie n'est pas la vie. Moi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Donc, l'idée de l'écriture aussi, c'est de transmettre des choses dont je me dis, si je l'avais su plus tôt, peut-être que j'aurais organisé ma vie différemment. Et je pense que cette énergie qu'on met à exister justement dans un monde qui n'a pas été créé pour nous et qui est même créé contre nous, donc un monde régi par le contrat racial, c'est vraiment quelque chose à mettre en lumière en contexte francophone. Ce livre, il vise aussi quand même beaucoup à vulgariser des notions qui viennent des pays anglo-saxons, donc bien entendu la notion de contrat racial développée par Charles Mills, mais plein d'outils qui, moi, m'ont permis de comprendre ce qui m'arrivait. Mmh. En fait, je pense que de par aussi mon parcours militant, une des choses qui m'a beaucoup choquée quand je suis arrivée, on va dire, dans des organisations à la vingtaine, etc., c'était de voir que souvent, les personnes qui étaient dans ces groupes militants-là partaient du principe que tout le monde peut s'organiser, que tout le monde a déjà une espèce de compétence de base sur des grandes théories, alors que ce soit dans les luttes anticapitalistes, etc. Mais non, en fait, tout le monde n'a pas grandi dans une famille où il y a le manifeste du Parti communiste, où on sait quelle est la différence entre Marx et d'autres auteurs, etc. Et c'est vrai que moi, j'essaie de me situer à cet endroit-là, qui est un endroit dans lequel je pense que sont beaucoup de personnes opprimées, c'est-à-dire un endroit où on ne comprend même pas que ce qui nous arrive, c'est politique. Un endroit où vivre de la violence médicale, ben on pense que c'est juste quelque chose de l'ordre individuel.
Pas de chance pour ce jour-là, quoi.
Alors qu'en fait, justement, et c'est ce qu'on entend chez Lorde, et c'est aussi chez Lorde que moi j'ai compris ça, tous ces sentiments, des choses qui nous paraissent extrêmement intimes, des peurs qui nous paraissent extrêmement intimes, de se dire je ne vais pas être légitime, on va remettre ma parole en question, je vais souffrir à un endroit où je ne devrais pas, etc. Mais finalement, quand vous commencez à lire des féministes noires, à des poétesses noires, ou les deux en même temps, mais vous vous rendez compte que c'est systémique, c'est pas juste vous. Et moi, c'est vraiment à cet endroit-là que j'essaye de travailler. Et donc, quand j'aborde la question de la survie d'entrée de jeu dans le livre, c'est parce que je veux qu'on parle, entre guillemets, des vrais sujets. Je pense aussi qu'une façon de se présenter, ou en tout cas que moi, j'ai eu cette façon de me présenter dans l'espace public, et je le dis dans le livre, parce que quand on est dans un monde qui veut notre mort, et de façon parfois très directe, hein, je veux dire, être une femme noire sur les réseaux sociaux, il vous suffit d'aller voir un petit peu les commentaires qu'il peut y avoir en dessous de posts sur mes réseaux ou sous les réseaux d'autres femmes noires, etc. C'est être en permanence victime d'attaques extrêmement violentes, directes.
De maltraitance et négligence qui mènent à la mort. Vous nommez cette femme Naomi Muzenga qui, très clairement, s'est vue refuser les soins en passant un coup de téléphone dans une situation de très grande gravité et est décédée parce qu'on n'a pas pris sa parole au sérieux et qu'il a été démontré que cette non-prise au sérieux de sa souffrance, de sa parole, de ses mots, de son appel au secours, auquel tout le monde a droit, était liée au nom qu'elle avait prononcé et à son accent camerounais.
Exactement. Et nous sommes toutes témoins de la mort de Naomi Muzenga. Et je ne connais pas une femme noire en France qui n'ait pas une peur panique de se dire que ça va lui arriver à elle aussi un jour. Et donc, pour moi, l'enjeu, il est vraiment là. Il est aussi parce qu'il y a trois niveaux d'adresse dans le livre. Ça a été quelque chose qui était aussi complexe à mettre en place. C'est-à-dire que moi, je parle d'abord aux femmes noires, parce que je pense aussi qu'à ces... C'est assez rare qu'on nous parle à nous, donc j'essaye de partager mon expérience à ce niveau-là. Je parle aux personnes racisées en général, parce qu'un régime d'oppression raciale met aussi en place un certain nombre de représentations pour chaque groupe. Donc quand vous êtes une femme noire, vous vivez de la misogynie noire, vous vivez aussi de la négrophobie classique, vous vivez un certain nombre d'agressions racistes qui sont spécifiques, alors que si vous êtes une femme maghrébine ou si vous êtes une femme visiblement musulmane parce que vous portez le voile, etc., vous allez vivre d'autres agressions, vous êtes victime d'un autre type de représentation. Donc, moi, je parle de mon endroit parce que si, en tant que personne noire, on peut vivre des violences qui proviennent aussi des personnes racisées. C'est le principe d'un régime d'oppression raciale, c'est qu'il ne suffit pas d'être blanc pour le perpétuer, ou il ne suffit pas d'être noir pour ne pas le perpétuer, ou d'être asiatique, maghrébin, etc.
Et vous racontez même comment vous vous êtes imposé à vous-même une propre silenciation de ce regard qui pourrait se poser partout, Amandine Gay, parce que vous avez craint, mais comme d'autres avant vous dans l'histoire, qu'en parlant de la violence des femmes, on puisse jouer le jeu d'un combat contre le féminisme. En parlant des violences qu'on pourrait dire intercommunautés ou dans la communauté raciale, on pourrait jouer le jeu du racisme. Et j'ai l'impression que dans ce livre-là, Vivre libre, il y a un enfin qui se permet un regard d'une très grande lucidité. C'est-à-dire qu'il appelle à la lucidité de tout un chacun et tout un chacune, mais j'ai l'impression que vous-même, vous êtes arrivé à un moment donné où vous avez dit « je vais tout regarder, tout ce qui m'est possible de regarder, je vais le regarder ».
Et ça vient encore une fois aussi d'Audrey Lorde, hein. C'est Audrey Lorde qui a dit « notre silence ne nous protégera pas ». Et effectivement, quand on lit, ça fait sens, mais par exemple, le mettre en application dans sa vie, moi ça m'a mis beaucoup plus de temps, parce qu'effectivement, il y a toujours cette menace. Et si nos propos vont être repris par le groupe majoritaire, et si nos propos vont être déformés. Mais c'est vrai qu'un des endroits, par exemple, où j'ai pu comprendre qu'il faut d'abord développer sa pensée sans se préoccuper de comment est-ce qu'elle va être reçue, c'est aussi de toujours prendre les choses à l'inverse. Est-ce que le fait de ne pas adresser la race comme construction sociale a fait disparaître le racisme? Non. Donc on va peut-être essayer. Peut-être que j'ai tort, hein. Peut-être que dans 20 ans, j'irai, je me suis trompée, j'aurais pas dû parler de racisation, etc. Dans mon fort intérieur, je suis assez sûre que je ne me trompe pas, mais admettons. Et je pense que c'est vraiment ça, cet enjeu aussi, c'est que parfois, on nous intime de nous taire, mais c'est ce que je dis, en fait, aujourd'hui, on le voit très bien. Si les violences, en particulier sexuelles, contre les enfants, ont pu se développer avec la plus grande facilité, jusqu'à un passé extrêmement récent et que ça continue aujourd'hui, c'est à cause du silence ou c'est à cause de la banalisation. Enfin, juste écouter de la pop française des années 60, 70, 80, des chansons où en fait c'est l'apologie de l'inceste, c'est l'apologie du viol, c'est l'apologie d'agression sexuelle de mineurs, etc. Et en fait, c'est de ne pas parler de ça, c'est de ne pas dire non, c'est scandaleux, ça ne devrait pas exister, il y a une loi, il y a un cadre de ce qu'est le viol, etc. Et donc non, c'est pas cool d'avoir une chanson sur avoir forcé le consentement d'une adolescente de 14 ans. C'est comme ça qu'on apprend à se défendre. Si on nous dit jamais que les choses sont graves, moi j'en ai souvent parlé parce que quand on se politise, des fois on voit des moments auxquels on n'a absolument pas réagi à quelque chose de scandaleux. Alors que moi, à cette époque-là, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de violent. J'étais à Sciences Po, on a un cours, c'était philo-politique ou quoi, et chaque année en amphi, le prof faisait la même blague quand il arrivait à Althusser, et il disait « Et alors, aujourd'hui, on va parler de Althusser, puisque Althusser est un intellectuel français qui a assassiné sa conjointe en l'étouffant. » Je veux dire, on était 200 dans l'amphi, on était beaucoup de filles dans l'amphi, et moi, la première, j'étais juste en mode « Oh, il est un peu relou, ce prof. » Ce genre de blagues, Dieu merci, sont terminées aujourd'hui. C'est parce qu'on a politisé, en fait, ce que sont les féminicides.
La banalisation de ce genre de crime. Je le disais, la construction de votre livre, Amandine Gay, c'est un tissage permanent entre le récit de certains épisodes de votre vie, et cela jusque dans la plus tendre enfance, avec les souvenirs dont vous disposez, à votre présent, à la femme que vous êtes aujourd'hui, aussi la femme que vous avez envie de devenir ou d'être. Il y a quelque chose qui s'entremêle pour une raison précise pour vous? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette écriture-là qui est pensé et de quelle manière? C'est pas un essai théorique purement théorique, c'est quelque chose qui vient chercher d'autres ressources.
Oui, parce que moi, j'essaie vraiment de travailler à l'endroit où on peut développer de l'écoute. Et c'est vrai que moi, j'ai d'abord commencé par les documentaires, avant d'écrire Une poupée en chocolat, le premier livre. Il y a d'abord eu deux films. Et en fait, ce que j'aime dans le documentaire, surtout dans ce que moi j'ai fait jusqu'ici, qui sont donc des films d'entretien, vraiment basés sur du récit de vie, c'est que c'est une autre façon d'entrer dans le politique. À partir du moment où quelqu'un vous parle de son expérience vécue, on n'est plus dans un débat. Voilà, c'est vrai que la France, c'est quand même beaucoup le pays du débat, on va dire, confrontationnel. Et moi, pour avoir vécu au Québec, etc., j'ai découvert un endroit où, en fait, on discute aussi pour avancer dans sa pensée et écouter l'autre, etc., et pas forcément dominer l'autre et avoir raison à la fin de l'argumentaire.
À ce compte-là, vous citez Sarah Schulman et la question du conflit comme étant quelque chose de fertile et d'intéressant, quoi.
Exactement. Et donc, du coup, je me rends compte, voilà, je l'ai beaucoup dit en audiovisuel, et donc j'essaye de le faire dans mon écriture pour les essais, les gens se lèvent rarement face à un écran de cinéma en criant « je suis pas d'accord ». C'est pas ça qui se passe. Donc il y a une écoute. De fait, une fois que vous êtes assis dans une salle de cinéma et que des femmes noires, voilà, vous racontent leur vie, ce que je disais souvent, c'est qu'ouvrir la voix, c'est la première fois que
la voix, c'est le titre de votre film.
De mon premier documentaire, c'est la première fois que plein de personnes blanches ont passé 2 heures à écouter des femmes noires sans leur couper la parole. Et du coup, à se décentrer un petit peu et à écouter ce qui est dit. Et donc moi, dans le fait de décrire à partir d'une expérience vécue, à partir de mon récit personnel, c'est ce que j'essaye de faire. C'est d'incarner une pensée politique, d'expliquer qu'en fait, tout ceci est très concret. Moi, je veux dire, au fond, je suis pas dans le débat d'idées. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que moi, et les personnes comme moi, on va pouvoir à terme s'exprimer créativement, librement. L'autre jour, je faisais la blague à des étudiants, mais c'est vrai. Moi, au fond, tout ça, c'est parce que je voulais être comédienne. Je veux dire, moi, je me suis formée dans un conservatoire d'art dramatique. Et si on ne m'avait pas dit, oh, mais arrêtez de vouloir dire du vert, vous dites très bien le vert, mais bon, on voit plus dans du slam. Mais tu me vois plus dans du slam. Parce que je suis noire, en fait. C'était mon univers. Moi, j'aimais Racine. Pourquoi j'ai pas le droit d'aimer Racine? Enfin, c'est quand même quelque chose. Et en fait, c'est cet endroit-là. Qui a accès? Je veux dire, ça s'appelle vivre libre. Parce qu'on nous rabâche à longueur de journée, hein, que voilà, ce serait le règne du politiquement correct, qu'on ne pourrait plus rien dire et que vraiment, nous, les gauchistes, les wokistes, je ne sais pas quoi, on empêcherait la liberté d'expression, la liberté académique. Mais c'est nous qui sommes entravés. C'est nous qui sommes brimés dans notre liberté académique parce qu'on nous dit, ah, tu ne peux pas travailler sur les questions raciales, tu es noire, tu ne seras pas objective. C'est moi qui suis entravée en tant qu'artiste, parce que j'écris des fictions dans lesquelles je vais mettre, voilà, des personnages noirs qui me ressemblent, des personnes que je connais et qui sont complexes et qui, voilà, moi j'aimerais un jour qu'on ait une vraie vilaine noire dans un film, un rôle de méchante, complexe et calculatrice. Ça me plairait. Il y a plein d'espaces encore qui ne nous sont pas ouverts, mais qui ne sont pas ouverts par le groupe majoritaire. Nous, on se visualise dedans. Nous, on écrit ça. Et moi, quand j'écris ça, on me dit « ce n'est pas réaliste, c'est trop anglo-saxon ». Et donc, je me mets à développer toute une activité, on va dire, intellectuelle, théorique, pour à la fin avoir un jour, possiblement, accès à ma liberté académique, à ma licence artistique. Parce que je veux bien qu'on me dise « je ne sais pas, par exemple, c'est mal écrit, mais je ne veux pas qu'on me dise « cette personne-là n'existe pas, donc on ne peut pas produire ce film ». Ça ne devrait pas être un argument, ça ne devrait plus être un argument en 2025.
Il y a quelque chose qui, quand vous dites aussi, qui quitte le domaine seulement académique ou théorique, c'est que lorsque vous décrivez, notamment avec Charles Mills, et d'ailleurs, je signale une émission qui a été diffusée sur France Culture avec Géraldine Mosna-Savoie, où vous parlez de votre rapport à ce texte-là, dans Le souffle de la pensée, qui est disponible en podcast, vous montrez ce que l'organisation sociale, d'après un contrat racial, fait au corps, fait à la psyché, fait au rapport à l'érotisme et à la sexualité, fait au rapport au plaisir, fait à l'autorisation de vie. Vous faites la liste terrible d'amis suicidés, mais aussi plus généralement de personnes qui ne se reposent jamais, qui ne prennent pas de soin d'elles. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à la poétesse Robin Cost-Lewis qui était à votre place il n'y a pas très très longtemps et qui fait un inventaire de tous les corps morcelés, jamais reposés de femmes noires dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la représentation. Il y a quelque chose qui rend aussi très palpable ce qu'un système politique produit sur les êtres.
Oui, et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est très concret, en fait. Je trouve que là aussi, c'est quelque chose qui se développe aujourd'hui de se dire, voilà, la philosophie, c'est pas simplement théorique, c'est pour ça que j'aime Charles Mills. C'est censé nous aider à comprendre, entre autres, le monde dans lequel on vit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, quand je parle de suprématie blanche comme régime politique, je parle d'un régime qui fait du mal aux personnes racisées, et du mal très concret. Donc voilà, je parle du stress traumatique lié à la race, qui est un concept qui a été développé, encore une fois, aux États-Unis par un psychologue afro-américain, Robert T. Carter, parce que ça m'intéresse de me dire, aujourd'hui, dans les pays où on considère la race comme une indication, donc encore une fois, la race comme construction sociale, comme ayant un impact dans la santé des personnes qui sont racisées, on va aller mesurer certaines choses, comme le taux de cortisol, hein, donc on appelle communément l'hormone du stress, pour voir justement quelles sont ces fluctuations. Alors, en France, on pratique quand même des études sur les fluctuations du taux de cortisol pour les femmes. Parce que donc, il y a déjà des données, il y a déjà une capacité à s'intéresser à ce que produit l'hormone du stress quand elle est générée de façon beaucoup trop constante, ou quand elle est générée face à des agressions, à des chocs.
Parce que femme.
Et donc, ce qui existe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est de le mesurer aussi pour voir ce qui se passe pour les personnes noires. Et donc, on se rend compte qu'il est possible qu'il y ait des corrélations. Il y a une question de l'hypertension artérielle chez les personnes noires qui a une plus forte prévalence. Il y a des questions aussi d'accidents cardiovasculaires qui ont une plus forte prévalence chez les personnes noires. Et on étudie aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, si ce ne sont pas des manifestations du stress traumatique lié à la race. Et donc, entre autres, de cette production constante substances de cortisol parce que on est en permanence en vigilance vis-à-vis des agressions racistes qu'on va vivre, ou même si on ne va pas les vivre, le simple fait de les anticiper nous maintient dans un état de production de cortisol très avancé. Donc moi c'est ça qui m'intéresse au final, c'est de se dire la représentation qu'on se fait du monde, qui a donc une histoire, et cette histoire, elle est théorique, philosophique, elle a des implications économiques, elle a des implications qui vont jusque dans le corps des personnes racisées. Et moi, c'est là que ça m'intéresse, parce que juste, j'ai envie de vivre, j'ai envie que les autres vivent, et je pense aussi que, encore une fois, et peut-être surtout en France, on a besoin de revenir à un niveau concret. Le vivre ensemble, c'est pas théorique. Ça demande une volonté collective. Ça demande d'être capable de se regarder en face, etc. Et donc moi, j'essaie juste de ramener ça, de redescendre un peu tout le monde dans le concret de la vie.
Et je le disais, une des dimensions de ce texte, c'est un appel réel que vous faites à différentes catégories du majoritaire, dont les femmes blanches, un appel très clair dont on va entendre un extrait.
C'est à partir du moment où on commence à considérer qu'on fait partie du problème, qu'on peut entamer une transformation radicale. Il existe un conflit objectif et inscrit dans l'histoire coloniale esclavagiste de notre pays entre femmes noires et femmes blanches. Travailler à le nommer et à reconnaître les mécanismes à partir desquels les femmes blanches, en particulier des classes dominantes, peuvent mobiliser la féminité hégémonique pour opprimer les femmes noires est un devoir collectif. En consacrant ce chapitre à la violence oppressive des femmes et à la spécificité de la violence des femmes blanches, je ne suis pas en train de vous agresser. Au contraire, je vous tends la main et vous propose de travailler ensemble et à partir de nos conflits. Je vous invite à vous inspirer des participantes du colloque qui ont quitté la salle avec nous, ou d'Adèle Haenel qui, usant de sa notoriété, a montré qu'il est toujours possible de crier « on se lève et on se casse » pour se montrer solidaire des plus vulnérables. Au sein de la classe des femmes. Devenez des traîtresses à votre race. Embrassez l'inconfort et considérez que réagir au conflit comme à une agression est une forme de mobilisation de la féminité hégémonique. La romancière et essayiste états-unienne Sarah Schulman est très claire à ce propos. Je cite « À l'exception de désastres naturels qui ne sont pas causés par les humains et les humaines, la grande majorité des souffrances, des destructions, des pertes et des négligences à l'encontre de la vie humaine sur cette planète et au-delà, résulte du caractère excessif de nos réactions face à la différence. Elle se manifeste à travers notre résistance à affronter et à résoudre des problèmes, autrement dit à refuser de changer la manière dont on se considère soi-même afin d'assumer ses responsabilités. Par conséquent, la manière dont nous envisageons le conflit, dont nous y répondons et dont nous nous comportons en tant que témoins est déterminante pour pouvoir vivre, ou pas, dans une situation de paix et de justice collective. » Fin de citation. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, n'oubliez pas que j'ai appris à pleurer plus vite et plus fort que vous.
On l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais il y a aussi de l'humour dans ce texte, comme en témoigne la fin de ce paragraphe à Amandine Gay. Est-ce que vous pouvez nous raconter après quel épisode quel chapitre vient clore ce paragraphe qui vient d'être lu?
Ouais, bien sûr, c'est le chapitre sur la violence des femmes, et donc je le débute en parlant justement de cette très grande ambivalence que j'ai eue de l'aborder publiquement, même si ça fait très longtemps que c'est un sujet qui me travaille, puisqu'effectivement parler de la violence oppressive des femmes, hein, puisque dans les milieux féministes il y a beaucoup de recherches sur la violence subversive, puisque justement les femmes sont quand même opprimées par le patriarcat, et donc en fait c'est aussi une des injonctions patriarcales, hein, c'est la douceur, c'est de se conformer, etc. Donc il y a eu beaucoup de recherches sur comment les moments où les femmes deviennent violentes sont des moments de subversion, de résistance aux injonctions patriarcales. Mais là où il y a eu moins de recherches féministes, c'est sur la violence oppressive des femmes. Et c'est pour ça que je disais que d'arriver à ne pas se penser de façon unidimensionnelle. Et donc, à se dire, oui, je peux être opprimée en tant que femme, mais peut-être que je suis une femme valide, peut-être que je suis une femme bourgeoise, peut-être que je suis une femme blanche. Et alors, si je suis une femme blanche, bourgeoise, valide, ben, je vais devoir quand même faire attention, parce qu'il y a un certain nombre de groupes sociaux que je peux opprimer à mon tour. Et donc, quand je parle de ça dans le livre, ben, je parle, encore une fois, à partir de mon point de vue situé. Moi, en tant que petite fille noire, qui n'a pas vécu de violence sexuelle dans l'enfance, les premières adultes qui m'ont opprimée, bah, c'était des femmes blanches, puisque dans une société patriarcale, ce sont les femmes qui ont le soin des enfants. Alors que ce soit les institutrices, les personnes du périscolaire, etc., etc. Et donc, je pense que dans ma tête, ça a été très clair, très vite, qu'il suffisait pas d'être une femme pour ne pas être violente. Qu'il s'agisse de se prendre du scotch sur la bouche, parce que moi, je suis de la génération où c'était encore ok de mettre le scotch sur la bouche. J'ai eu une institutrice qui nous coinçait la tête entre ses jambes si elle trouvait qu'on était trop agité dans la cour de récréation, etc. Enfin, un autre qui nous jetait ses chaussures, ses craies. Donc, ce genre de choses-là, pour moi, ça a été très manifeste qu'il suffisait pas d'être une femme pour ne pas être violente. Et puis ensuite est venue ma conscientisation sur les rapports de pouvoir dans l'adoption, et en particulier dans l'adoption transraciale, où il peut y avoir quelque chose de très réifiant. Performer son antiracisme en allant adopter des enfants des pays du Sud, des enfants racisés, et donc se raconter qu'on est forcément quelqu'un d'ouvert et de non raciste parce qu'on a adopté des enfants noirs, et que c'est en fait le contraire.
Ce que vous élargissez aussi dans la sexualité, c'est-à-dire performer son ouverture d'esprit et son non-racisme en disant « je couche avec telle ou telle personne » ne garantit en aucun cas d'être en dehors de systèmes d'oppression et de racisme.
Et au contraire, moi c'est pour ça aussi que dans le livre je ramène le terme négrophilie. C'est-à-dire que si on pense un système d'oppression raciale dans toute sa complexité, on ne doit pas le penser que dans ses expressions négatives, donc par exemple l'insulte raciste. On doit le penser dans ses expressions, on va dire, je ne sais pas si elles sont positives, mais en tout cas tout se pend des personnes qui aiment les Noirs, qui adorent le sabar, qui veulent absolument s'habiller comme des rappeurs, etc. Moi, me pose autant question que des personnes qui vont être frontalement agressives parce que je suis noire. Et donc, ce côté-là de dire, ben en fait, moi je connais plein de parents adoptants et je connais plein de mères adoptantes blanches, de gauche, même de l'industrie du cinéma, qui dès qu'on les met face à elles-mêmes et qu'on leur dit, mais est-ce que c'est vraiment manifestation du fait de ne pas avoir les couleurs que d'avoir adopté, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous avez réifié un bébé noir parce que c'était l'occasion d'aller montrer à tout le monde à quel point vous étiez ouverte d'esprit?
Ou en tout cas, qu'est-ce qui se jouait d'extrêmement complexe et dans ce lien tout à fait évidemment nourri d'un monde qui a été et encore à des égards colonial, qui a été le monde de l'esclavagisme? Comment est-ce que en fait il n'y a pas de relation qui peut échapper à cette histoire-là, Amandine Gay?
Exactement. Et le seul moyen d'y échapper à terme, c'est de le thématiser. C'est-à-dire que si c'est très clair pour vous que vous êtes une personne blanche, que vous faites venir un enfant noir dans votre famille, que vous allez devoir vous éduquer à s'occuper des cheveux, que vous allez devoir éduquer votre entourage, vous assurer que votre enfant ne vive pas d'agressions racistes dans la famille élargie, auprès de vos amis, de vous montrer comme solidaire des luttes des personnes noires, parce qu'en ayant des enfants noirs, vous devez être solidaire des luttes contre les violences policières. Tout le monde devrait. Mais si vous avez des noirs dans votre famille et que ça ne vous choque pas quand on tue des enfants noirs, que vous n'êtes pas scandalisé par le profilage racial quand on leur demande encore et toujours de montrer leur papier d'identité, vous n'allez pas être un très bon soutien pour votre enfant. Et donc cet amour-là, même s'il est réel, et c'est ce que je dis aussi dans le livre, c'est peut-être la chose aussi la plus déroutante quand on est une personne racisée, d'être tant aimé, mais si mal aimé par notre entourage blanc. Et donc, c'est là pour moi qu'il y a vraiment quelque chose à venir travailler. Et donc, c'est pour ça que je voulais être en mesure d'aborder la dimension oppressive de la violence des femmes. Parce qu'encore une fois, nos luttes vont prospérer si on est capable de se regarder dans nos endroits de contradiction, dans nos endroits où on a raté. Et c'est ok aussi. On peut être en échec parfois. Moi, je veux dire, je suis pas là pour dire aux gens... Le truc de la pureté militante, c'est aussi ça, moi, qui m'a tenu loin, ou qui m'a éloigné des milieux activistes.
Beaucoup.
Voilà, c'est pas ça mon objet. Moi, je veux dire, je donne l'exemple dans le livre, je n'étais pas sensible à la question du validisme jusqu'à 2015. Il a fallu que je sois interpellée par des militantes handicapées. Mais par contre, quand on vous interpelle, est-ce que votre réaction, c'est de mettre votre ego sur la table et de réclamer le confort et de dire, ah non, mais moi, je suis une bonne personne, je suis pas raciste, pourquoi est-ce que tu me dis ça, se mettre à pleurer, etc. Ou est-ce que juste, c'est de prendre un temps de respirer un bon coup et de dire « Ok, j'y avais pas pensé, je vais voir ce que je peux faire, je vais me renseigner, je vais voir comment je peux travailler à construire des ponts. Peut-être qu'il y a des endroits, même moi en tant que personne noire, j'ai souvent donné cet exemple. Quand il y a eu la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, moi j'ai passé beaucoup de temps à relayer sur mes réseaux sociaux, etc. Mais je vais pas moi aller monter sur une caisse à savon, parce que je suis une femme noire privilégiée. Donc la question c'est toujours de se dire... Où est-ce que je peux être utile dans la lutte, même au sein de nos communautés? Parfois, notre travail, c'est de se faire le relais. Parfois, c'est de donner de l'argent à la caisse de grève, parce que moi, j'ai de l'argent, plus que d'autres femmes noires, en tout cas. Et c'est OK. On n'a pas besoin, par exemple, de toujours se mettre en scène. Moi, je me rappelle d'une fois où il y avait, pour soutenir les femmes en Iran, que c'était d'un coup plein de femmes blanches qui se coupaient les cheveux, ou je sais pas, etc. Mais on peut relayer la parole des féministes iraniennes. On peut, encore une fois, se décentrer. C'est plus utile.
D'ailleurs, il me semble que dans ce livre-là, une des choses qui résonne fort, c'est un appel à l'écoute. C'est-à-dire que j'ai beaucoup parlé du regard jusqu'à maintenant, mais la possibilité de juste écouter semble une des choses que vous dites le plus simplement, Amandine Gay, justement, à ce propos-là. Notre auditrice Florence a lu votre livre et vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Amandine Gay. J'ai lu votre livre et ce qui m'a plu, c'est votre style direct, sans fioritures. J'aimais votre façon de souligner la portée des actions, comme celle des Black Panthers, des voix comme celle de Nina Simone, les impacts des écrits de Toni Morrison, de Bell Hooks. Mais ce qui m'a particulièrement touchée, c'est cette choralité que vous créez entre votre histoire, votre vie, et celle de ceux qui vous ont précédé, et qui résonne plus que jamais. D'où ma question, Amandine. Comment favoriser la solidarité des luttes et assurer leur pérennité? Merci Amandine Gay pour votre livre.
Merci beaucoup Florence pour cette lecture et pour cette question. Il y a presque un manuel dans votre livre. Ça vous fait rire. Grand sourire à la question de Florence.
Oh, j'adore cette question, merci Florence. Mais je pense que déjà, et c'est un exemple que j'ai donné dans le livre, la question de la coalition plutôt que de la convergence des luttes. Donc encore une fois aussi de se dire, il n'y a pas un centre, il n'y a pas une avant-garde éclairée de la révolution qui décide pour tout le monde, mais il y a des sujets sur lesquels on peut se mobiliser et parfois on va être ensemble. Hein, ce qu'on a dit par exemple sur la question de, il y a des divisions au sein de la classe des femmes. Bon bah il y a des endroits où on est tout ensemble. Le droit à disposer de notre corps, militer contre la fin des violences faites aux femmes, la fin des féminicides, la fin des violences sexuelles, etc. Ça c'est une lutte, on va dire, globale de toutes les femmes, et là, bah, c'est super, il y a des moments où on peut être tout ensemble. Par contre, parfois, on va devoir regarder les endroits où certaines d'entre nous en exploitent d'autres. Que ce soit dans, voilà, par exemple, le travail du care, ce qu'on appelle, donc le soin des enfants, le soin des personnes âgées, etc. Est-ce qu'on emploie des personnes qui sont des exilées et donc, du coup, on a un ascendant sur elles parce qu'elles sont pas encore naturalisées? Est-ce que, du coup, on a un ascendant aussi économique parce qu'elles sont pas en mesure de négocier leur salaire, etc. Et donc, il se peut qu'à ce moment-là, bah, il va y avoir des oppositions entre des femmes plus puissantes et des femmes qui ont moins de pouvoir. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'on peut penser en termes de coalition et de regarder des coalitions qui ont été efficaces dans le temps. Donc, dans le livre, je cite la Rainbow Coalition qui avait été montée en 69 à Chicago par Fred Hampton et les Black Panthers, où l'idée, c'était de travailler à plusieurs collectifs sur des enjeux clairs. Donc, la lutte contre... la gentrification, l'accès à un programme de petit déjeuner, donc la lutte contre la très grande précarité, la lutte contre les violences policières, la lutte, voilà, il y avait eu 4 ou 5 luttes très 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 clairement nommées. Et là, du coup, les Black Panthers décident de rassembler plusieurs groupes, donc des collectifs radicaux de gauche, on va dire, pour aller vite, des Portoricains, des autochtones, des asiatiques, mais ils se rapprochent aussi des Young Patriots, qui sont un collectif anticapitaliste et radical aux États-Unis à cette époque, mais qui sont aussi des suprémacistes blancs à l'époque, ou en tout cas, ils arborent le drapeau confédéré. C'est un groupe de militants qui vient du sud des États-Unis et qui est donc plutôt réputé pour son racisme. Et donc, Fred Hampton et les Black Panthers décident de outrepasser ce gros point pour s'organiser ensemble en se disant « on est là ». On est tous mobilisés sur les mêmes luttes. Il se trouve juste qu'il y a un groupe qui n'est pas très au clair sur les questions raciales. On va le dire comme ça pour être poli. Donc ça crée...
Et ils passent là-dessus.
et il passe là-dessus. Ça crée beaucoup de dissensions, mais il passe là-dessus. Et en fait, à force de travailler ensemble, bah, sans surprise, très rapidement, les Young Patriots abandonnent le drapeau confédéré et voilà, se tissent de nouveaux liens. Donc là, c'est un exemple un peu extrême. Je ne dis pas qu'on doit toujours travailler avec les racistes parce que franchement, on est fatigué. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de se dire on va se mobiliser sur une ou plusieurs actions concrètes avec des personnes avec qui peut-être on n'a pas toujours des choses en commun, mais il y a une vraie perspective d'émancipation. Et je le dis en note de bas de page à la fin du livre, ce qui est intéressant, c'est de se dire ça a pourtant marché dans l'histoire et les groupes conservateurs et réactionnaires ont très bien compris que ça avait marché parce que Fred Hampton a été assassiné l'année suivante dans le cadre du programme COINTELPRO du FBI. Donc vraiment, réveillons-nous dans les gauches, les coalitions, ça marche.
Et vous faites aussi mention de l'importance de cette mémoire des luttes et de cette mémoire des savoirs, Amandine Gay, tout au long de votre livre.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est un livre où on voit passer des musiciennes, je disais tout à l'heure, qu'on voit passer, même on entend la figure de Janelle Monáe, mais on entend aussi Nina Simone. Et comme à la fin du Book Club, on joue à un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales, à repérer les évocations d'airs musicaux dans les textes, c'est donc avec un extrait de votre texte qu'on se quitte. Si l'injonction à l'humilité, en particulier dans le domaine artistique, est genrée, on ne reproche jamais leur manque d'humilité aux artistes hommes, au contraire, leur arrogance est souvent considérée comme une preuve de leur génie. L'injonction à la patience relève autant du patriarcat que de la suprématie blanche. Lorsque vous appartenez aux communautés noires, vous savez que l'injonction à la patience est une stratégie de maintien du statu quo social, inscrit dans les sociétés coloniales esclavagistes. Nina Simone le dénonçait déjà en 1964, dans une des chansons emblématiques du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains, N, Mississippi Goddamn. Piquet de grève, boycott scolaire, ils essaient de dire que c'est un complot communiste. Tout ce que je veux, c'est l'égalité. Pour mes sœurs, mes frères, mon peuple et moi. Oui, vous m'avez menti toutes ces années, vous m'avez dit de me laver et récurer mes oreilles, que si je parlais bien, comme une vraie dame, vous arrêteriez de m'appeler Sister Sadie. Mais ce pays n'est que mensonge. Vous allez tous mourir, mourir comme des mouches. Je n'ai plus confiance en vous. Vous continuez à dire « Allez-y doucement, doucement. » Mais c'est justement le problème. Trop lent. Déségrégation, trop lente. Participation massive, trop lente. Réunification, trop lente. Faire les choses progressivement, trop lent. Amène plus de tragédies, trop lent. Pourquoi ne le voyez-vous pas? Pourquoi ne le sentez-vous pas? Je sais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez pas besoin de vivre à côté de moi. Donnez-moi juste l'égalité.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. Goddamn! Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi.
Merci beaucoup, Amandine Gay.
Merci beaucoup.
Allongée sur sa chaise, en train d'écouter Nina Simone, Meilleure vie. Vivre libre apparu aux éditions de La Découverte dans la collection Cahier libre. On aura beaucoup dit ce mot. C'est bien. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Cyril Marchand, Garance Roubieux qui a préparé l'émission avec moi. Si vous voulez poursuivre la conversation, vous pouvez le faire sur le compte Instagram du Book Club animé par Alexandre Alaïbekovitch.